écouter, réviser, en attendant de retrouver la grande table et ses invités, heureuse de vous retrouver tous les midis pour 5 semaines spéciales. Le temps d'un confinement, France Culture fait résonner dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains et vous invite à lire ou relire des classiques signés Apollinaire, Molière, Stendhal ou encore Marguerite Yourcenar. Des romans, des pièces ou des poèmes, révisez ces œuvres de notre patrimoine littéraire au programme du bac de français, analysées pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Victor Hugo, Les Contemplations, épisode 2, lu par Denis Podalydès de la Comédie Française.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Jeune, il manifestera son désir d'être Chateaubriand ou rien. Victor Hugo se fait connaître à 18 ans par la publication de poèmes qui lui valent les faveurs du roi Louis XVIII. Son génie littéraire va dès lors s'exprimer dans tous les domaines, poésie, théâtre, roman, essai, et comme si cela ne suffisait pas, Hugo en plus dessine et il peint. Devenu la figure absolue de l'aimable grand-père barbu de la nation, il meurt en 1885 après avoir prononcé un dernier oxymore « Je vois une lumière noire ». 2 millions de personnes suivront jusqu'au Panthéon l'humble corbillard des pauvres, selon ses dernières volontés. Le peuple pleure son défenseur et ce grand homme, d'abord royaliste comme sa mère, puis bonapartiste en hommage à son père, général d'Empire, avant de devenir un républicain convaincu, le parcours politique de Victor Hugo est étonnant. Mais sa fibre populaire, elle, apparaît comme une constante depuis ses débuts. Son roman emblématique, Les Misérables, sortira en 1862, mais depuis 30 ans déjà, Hugo sera de tous les combats pour les petites gens, comme on dit, les défavorisés. Il peut changer de banc, mais ne change pas de cause. Cette fidélité, la patrie lui en sera reconnaissante. Sa vie ne fut pas pour autant un long fleuve tranquille. Hugo va traverser des épreuves douloureuses. Bien avant l'exil, il va endurer la crise de folie furieuse de son frère, le jour même de son mariage avec Adèle Fouché, mariage qui sera un échec. Mais son plus grand malheur sera la perte de sa fille aînée, Léopoldine, à 19 ans. Didine, comme la surnomme affectueusement son père, épouse Charles Vaquerie en février 1843. Quelques mois plus tard, séjournant avec sa famille sur les bords de la Seine, elle embarque dans un canot avec son mari et 2 autres membres de la famille. Un coup de vent brusque fait chavirer la barque et emporte Léopoldine. Charles plonge 6 fois pour tenter de la sauver. En vain, il plonge une dernière fois et meurt avec elle. Victor Hugo est alors en voyage. Il revient d'Espagne avec sa maîtresse, Juliette Drouet. C'est par le plus grand des hasards, dans un café, qu'il apprendra la nouvelle, dans le journal. Léopoldine est alors morte depuis 4 jours. Cette mort le terrasse et le réduit au silence pendant des mois. S'il continue à écrire, Victor Hugo ne publie plus rien. Il se réfugie dans la politique, exutoire à sa peine. Avec la révolution de 1848, par conviction et par empathie, il se rapproche du peuple qui souffre. Il semble toujours incapable d'écrire sur la perte de Léopoldine. En juillet 1851, il s'oppose à l'idée que Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, conserve le pouvoir et il le critique ouvertement. Écoutez ces mots. Quoi ? Après Auguste, Augustule ? Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ? Son opposition radicale le pousse à l'exil après le coup d'État du 2 décembre 1851. Victor Hugo va devoir quitter son pays et du même coup s'éloigner de Léopoldine, un double déchirement pour l'homme. C'est à elle que s'adressent les Contemplations, recueil publié en 1856 et auquel le dernier poème donne tout son sens, à celle qui est restée en France. Dans le début du livre 4 de ce recueil, Pauca Meae, qu'on pourrait traduire par quelques vers pour ma fille, Victor Hugo exprime sa douleur incoercible et égrène les souvenirs heureux et innocents du temps passé. « C'était un esprit avant d'être une femme », écrit-il. Tendez l'oreille, c'est un grand, grand comédien, Denis Podalydès de la Comédie Française, qui va redonner vie aujourd'hui aux mots de Victor Hugo et à travers eux à sa fille Léopoldine.
Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurai 3 jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prit votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé ? Je voulais me briser le front sur le pavé, Puis je me révoltais, et, par moments, terrible, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais « Non !» Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur le désespoir se lève ? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit « Silence, elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient. Laissez-moi, que j'écoute. Car elle est quelque part dans la maison, sans doute. » Jersey, 4 septembre 1852. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu, et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Novembre 1846, jour des morts. Elle était pâle et pourtant rose, petite avec de grands cheveux. Elle disait souvent « je n'ose » et ne disait jamais « je veux ». Le soir, elle prenait ma Bible pour y faire épeler sa sœur et, comme une lampe paisible, elle éclairait ce jeune cœur. Sur le saint livre que j'admire, leurs yeux purs venaient se fixer, livre où l'une apprenait à lire, où l'autre apprenait à penser. Sur l'enfant, qui n'eût pas lu seul, elle penchait son front charmant, et l'on aurait dit une aïeule tant elle parlait doucement. Elle lui disait « Sois bien sage », sans jamais nommer le démon. Leurs mains erraient de page en page, sur Moïse et sur Salomon, sur Cyrus qui vint de la Perse, sur Moloch et Léviathan, sur l'enfer que Jésus traverse, sur l'Éden où rampe Satan. Moi, j'écoutais. Oh, joie immense de voir la sœur près de la sœur. Mes yeux s'enivraient en silence de cette ineffable douceur. Et dans la chambre humble et déserte où nous sentions, cachés tous trois, entrer par la fenêtre ouverte les souffles des nuits et des bois, tandis que dans le texte auguste, leur cœur, lisant avec ferveur, puisait le beau, le vrai, le juste, il me semblait, à moi, rêveur, entendre chanter des louanges autour de nous, comme au saint lieu, et voir sous les doigts de ces anges tressaillir le livre de Dieu. Octobre 1846. Thank you. beaux souvenirs, printemps, aurore, doux rayons tristes et réchauffants. Lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant, connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Elle courait dans la rosée, sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, de peur de la faire envoler. Ses frères riaient. Aube pure. Tout chantait sous ses frais berceaux. Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais, on devenait brave. Elle montait à petits pas et me disait d'un air très grave « J'ai laissé les enfants en bas. » Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Nous jouions toute la journée. Ô jeu charmant, chers entretiens. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait « Père, viens !» Nous allons t'apporter ta chaise, conte-nous une histoire, dis. Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant les carnages, j'inventais un conte profond dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Toujours, ces quatre douces têtes riaient, comme à cet âge on rit, de voir d'affreux géants très bêtes, vaincus par des nains pleins d'esprit. J'étais l'Arioste et l'Homère, d'un poème éclos d'un seul jet. Pendant que je parlais, leur mère les regardait rire et songeait. Leur aïeul qui lisait dans l'ombre, sur eux parfois levait les yeux, et moi, par la fenêtre sombre, j'entrevoyais un coin des cieux. Villequier, 4 septembre 1846.
Après ces quatre poèmes lus par Denis Podalydès, l'analyse des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Victor Hugo voulait écrire sur notre fragilité à tous devant la mort, bien avant la disparition de sa fille, dès 1840, quand il envisage un recueil, Les Contemplations d'Olympio. Le deuil et l'exil vont rendre ce désir urgent. En 1852, Victor Hugo écrit à son éditeur qu'il envisage un recueil en deux volumes, l'un, autrefois, poésie pure, annonce-t-il, serait consacré au souvenir de sa fille bien-aimée. Le second, aujourd'hui, serait une flagellation de tous ces drôles et du drôle en chef, à savoir Napoléon III. Au fil de l'écriture, la colère du poète contre l'empereur prend le pas et envahit l'espace poétique. Il abandonne temporairement son projet initial et s'investit dans un recueil engagé et autonome, Les Châtiments. L'idée des contemplations reviendra de manière plus vive encore à la mort de sa fille. La mort, cette énigme, Hugo se lancera dans des séances de spiritisme pour essayer d'entrer en contact avec elle. Ce recueil est un double tombeau. Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort, écrit Hugo dans sa préface. Tombeau personnel, donc, mais aussi tombeau littéraire, c'est-à-dire un hommage rendu à un être récemment décédé. Pour qu'il soit à la hauteur de cette fille tant aimée, Hugo veut qu'il soit le plus grand de ses livres, ce qu'il nomme sa grande pyramide, le couronnement de son œuvre poétique. Après avoir plusieurs fois remanié le plan général de l'ouvrage, il optera finalement pour une construction binaire, autrefois et aujourd'hui, deux parties, séparées par l'abîme de la mort. Hugo parle de sa douleur de père. Les mots et des images qu'il utilise sont d'une simplicité et d'une sincérité désarmantes. « Oh, je fus comme un fou dans le premier moment », écrit Victor Hugo. Ce chagrin qui confine à la folie, Hugo nous le fait partager de l'intérieur. Dans ses mots, chaque lecteur peut investir et reconnaître sa propre expérience du malheur. Mission qu'il s'est assignée et qu'il énonce dans la préface « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous ». Le souvenir de Léopoldine est partout. Miracle de douceur et de charme, incarnation de l'enfance heureuse, sa simple présence impose le bonheur. Le tableau idyllique qu'en donne l'auteur son père était-il fidèle à la réalité? Pour lui, en tout cas, Léopoldine dissipe les ténèbres, elle chasse la laideur du monde. Son âme est pure, sa gaieté en est le reflet. Elle est son oxygène, elle est sa raison d'être. Elle est fée, étoile, princesse, ange. Elle est sa muse aussi. Écoutez ses vers. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Ce n'est pas juste une image poétique. L'amour de Victor Hugo pour sa fille est plus fort que tout. Par-delà la mort, il lui adresse poétiquement cette fois un message aussi touchant que la lettre qu'il lui avait envoyée quand elle avait 10 ans. « À bientôt, ma Didine. Garde toujours cette lettre. Quand tu seras grande, je serai vieux, tu me la montreras et nous nous aimerons bien. Quand tu seras vieille, je n'y serai plus. Tu la montreras à tes enfants et ils t'aimeront comme je t'aime. À bientôt, ton petit papa. » En 1847, Victor Hugo signe son poème le plus célèbre, véritable chant d'amour à celle qu'il a perdue. Il l'écrit en une journée, d'un seul jet, sans biffure. Nous sommes en octobre et il est venu se recueillir sur la tombe de sa fille au bord de la Seine. Le voyage se charge sous sa plume d'une nécessité impérieuse. Le poème est daté du 3 septembre, veille du jour anniversaire de la mort de la jeune femme.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. 3 septembre 1847.
Nom du village où est enterrée Léopoldine aux côtés de son époux, le long poème « À Villequier » consacre à la fin du livre 4 des Contemplations une forme de sagesse, d'acceptation douloureuse de la volonté divine. Mais le cœur saigne toujours, les larmes coulent encore, la blessure ne se referme pas. La colère du premier moment s'est dissipée, mais pour Victor Hugo, le monde a perdu ses couleurs. « À Villequier », extrait des Contemplations de Victor Hugo, lecture par un comédien confiné, Denis Podalydès, de la Comédie française.
À Villequier. Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors, pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendrie par ces divins spectacles, plaines, forêts, rochers, vallons, fleuves argentés, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte, apaisé, les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme est le commencement. Je conviens à genoux que vous seul, Père Auguste, possédez l'infini, le réel, l'absolu. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l'a voulu. Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive par votre volonté. L'âme de deuil en deuil, l'homme de rive en rive, roule à l'éternité. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses. L'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant. L'homme subit le joug sans connaître les causes. Tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant. Vous faites revenir toujours la solitude autour de tous ses pas. Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude ni la joie ici-bas. Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire. Rien ne lui fut donné dans ses rapides jours pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire « C'est ici ma maison, mon champ et mes amours ». Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient. Il vieillit sans soutien. Puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient. J'en conviens. Le monde est sombre, ô Dieu. L'immuable harmonie se compose des pleurs aussi bien que des chants. L'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie, nuit où montent les bons, où tombent les méchants. Je sais que vous avez bien autre chose à faire que de nous plaindre tous, et qu'un enfant qui meurt, désespoir de sa mère, ne vous fait rien à vous. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent passent sous le ciel bleu. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Je le sais. Ô mon Dieu. Dans vos cieux, au-delà de la sphère des nues, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre que des êtres charmants s'en aillent, emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subite clémence qui dérange le monde, ô Dieu, tranquille esprit. Je vous supplie, ô Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. Considérez encore que j'avais, dès l'aurore, travailler, combattu, penser, marcher, lutter, expliquant la nature à l'homme qui l'ignore, éclairant toute chose avec votre clarté, que j'avais, affrontant la haine et la colère, fait ma tâche ici-bas, que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, que je ne pouvais pas prévoir que vous aussi, sur ma tête qui ploie, vous appesantiriez votre bras triomphant, et que vous qui voyez comme j'ai peu de joie, vous me reprendriez si vite, mon enfant. Qu'une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette, que j'ai pu blasphémer et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette une pierre à la mer. Considérez qu'on doute, ô mon Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, qu'un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre quand il ne vous voit plus ne peut vous contempler, et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre dans les afflictions, est présente à l'esprit la sérénité sombre des constellations. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mère, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire s'il ose murmurer. Je cesse d'accuser, je cesse de maudire, mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant, « Sens-tu que je suis là ?» Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir, quand tout se tait, comme si, dans sa nuit, rouvrant ses yeux célestes, cet ange m'écoutait. Hélas, vers le passé, tournant un œil d'envie, sans que rien ici-bas puisse m'en consoler, je regarde toujours ce moment de ma vie où je l'ai vu ouvrir son aile et s'envoler. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure, l'instant, pleurs superflus, où je criais, l'enfant que j'avais tout à l'heure. Quoi donc? Je ne l'ai plus? Ne vous irritez pas que je sois de la sorte. Oh mon Dieu, cette plaie a si longtemps saigné. L'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte, et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné. Ne vous irritez pas. Front que le deuil réclame, mortels sujets aux pleurs, il nous est malaisé de retirer notre âme de ces grandes douleurs. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur. Quand on a vu dans sa vie un matin, au milieu des ennuis, des peines, des misères et de l'ombre que fait sur nous notre destin, apparaître un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux, si beau, qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée une porte des cieux. Quand on a vu, 16 ans, de cet autre soi-même croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérez que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va. Villequier, 4 septembre 1847.
On peut conclure avec les mots d'un autre, ceux de son ami Gérard de Nerval dans Les Chimères, qui semble avoir été écrit pour lui, Victor Hugo, le déshérité. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Léopoldine aussi est morte et son père Victor Hugo est pour jamais entré dans la nuit du tombeau. Allez maintenant tous à vos livres, les Contemplations de Victor Hugo sont à lire si vous le souhaitez, si vous le pouvez, dans son intégralité. C'était Écouter, Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Patrick Laudet qui a supervisé cette programmation, à Philippe Le Guillou, inspecteur général, et Dominique Bally, professeur, qui ont préparé cette très belle analyse des Contemplations de Victor Hugo. Lecture coordonnée par Blandine Masson et Sophie Haute-Picon, avec Mathieu Tourin à la technique, mise en onde Thomas Duterre. Sur franceculture.fr, vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster et retrouver toutes les informations en lien avec l'émission, compilées et mises en page par Laura Dutèche-Pérez. Merci beaucoup pour tous vos messages, très bel après-midi sur France Culture et à lundi.